Le paddock RMC, Louis Gerbier.
Good morning mates, on va partir cette semaine pour un nouveau Grand Prix de Formule 1 et on va où les amis, on va en Grande-Bretagne à Silverstone dans le temple de la Formule 1. Et aujourd'hui, pour parler de tout ça, juste avant ce week-end de Grand Prix, je reçois deux ingénieurs de talent, mais surtout, c'est la jeunesse qui prend le pouvoir, puisque on est avec Séraphin Bette. Salut Séraphin.
Salut Louis, salut à tous.
Et on est avec l'homme qui me met un défi chaque semaine avec son nom de famille, Tristan Vandendrich. Salut Tristan.
Salut, salut à tous. Et je peux vous dire qu'il l'a bien prononcé. Ah, magnifique.
Enfin. Non mais quel plaisir d'entendre ça. Bon allez, je vous donne tout de suite le sommaire. Vous savez qu'habituellement, on attaque avec les caractéristiques du circuit. Mais là, il y a un tremblement de terre les amis. On va partir direct avec la folle rumeur qui prend de l'ampleur. Verstappen chez Mercedes. Ça pourrait être dingue. Évidemment, du coup, après, on parlera du Grand Prix, on parlera du circuit, on reparlera de Norris, parce que finalement, une semaine, il nous fait le coup de, on se dit, c'est fini pour lui cette année. La semaine d'après, on se dit, en fait, il est encore dans le coup. Donc, on va poser la question une bonne fois pour toutes à nos ingénieurs, savoir un peu ce qu'ils pensent de Lando Norris. Est-il finalement vraiment toujours dans le coup? Et un challenger à Piastri pour être champion du monde cette année. Et ensuite, l'un de vous deux nous parlera de la candidature potentielle de Tim Meyer à la FIA, ce qui permettrait une élection avec plus d'une personne. C'est souvent pas mal, c'est souvent un concept qui marche bien. Le Grand Prix à domicile de qu'est Silverstone, puisque beaucoup d'écuries viennent de là. Séraphin, on en parlera avec toi. Pourquoi ce Grand Prix, c'est vraiment quasiment le plus important, c'est l'apogée d'une saison. Ensuite, Audi aussi qui inaugure un site en Grande-Bretagne justement pour leur arrivée en F1 l'année prochaine. Et puis on finit par les classiques, le point des Français et surtout vos pronos pour le Grand Prix les amis. Voilà le tour de chauffe du débrief du Grand Prix de Grande-Bretagne. Séraphin m'a engueulé tout à l'heure, on dit bien Grande-Bretagne. Les gommes sont à température et éteignez les feux, c'est parti. Bon alors les gars, pour tout ce qui est virage et choses, on arrivera là-dedans dans 5 minutes, mais là, il faut que vous me parliez de... Enfin moi, j'ai eu une notification push, j'ai failli faire un arrêt cardiaque. Il y a quand même Verstappen qui pourrait finir chez Mercedes et on n'en est pas à des hypothèses, des choses dites et redites. Non. Là, ça pourrait être dès la saison prochaine, Verstappen dans le baquet Mercedes, Séraphin.
Exactement, on est sorti de ce Grand Prix d'Autriche en se disant, voilà, fin du week-end, super. Et effectivement, on a commencé le début de semaine avec beaucoup d'informations. Je crois que c'est The Race qui a commencé à sortir l'information.
Sky Sport News, 23h, quelque chose comme ça. En plus, ils nous ont sorti ça. Donc,
dimanche soir, en plus.
Il faisait 40 degrés, en plus.
Il n'y a personne qui dormait, qui arrivait à dormir.
Et donc
effectivement, Max Verstappen, alors on rappelle quand même que de base, son contrat est prévu jusqu'en 2028. C'est quand même un élément à prendre en compte. D'ailleurs, ça va pas être facile pour lui parce que derrière, ils vont avoir du mal à laisser partir, hein, que ce soit Christian Horner ou surtout Marco. Son contrat est normalement prévu jusqu'en 2028. Mais effectivement, il se serait rapproché du team donc de Mercedes. Donc là, ça a continué dans les heures qui ont suivi. On sait qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. D'ailleurs, même les teams principales des autres écuries ont réagi effectivement à ces informations. Et comme tu l'as dit, Louis, je pense que les conséquences peuvent être énormes pour le monde de la Formule 1. Et voilà, il y a eu des cycles comme ça, avec des grands champions qui sont plus ou moins bien passés dans leur écurie. Et quand même, on sait que Red Bull, là, ça fait un an que la situation interne est extrêmement compliquée. Ils ont perdu énormément de monde, hein. On se souvient d'Anyway, il y a plein d'autres aussi à l'intérieur. On sent que la voiture, à chaque week-end, elle est sur des zones. On n'arrive même pas à l'évaluer concrètement, hein, cette voiture. On voit que les deuxièmes pilotes, ceux qui sont enchaînés, c'est encore compliqué. Il est seul à pouvoir essayer d'en faire quelque chose. Donc en fait, ça paraît cohérent, surtout en vue de 2026, où on sait que Red Bull sera motorisé par Ford. Et on n'a pas beaucoup, malheureusement, d'informations sur les moteurs et sur l'état de l'avancement des écuries, mais ça peut être un bon move à faire peut-être pour pour le pilote néerlandais.
Tristan, moi quand j'entends ça, évidemment on pense, comme l'a dit Séraphin, au tremblement de terre global que ça peut avoir en F1, que ça peut avoir sur les fans, que ça peut avoir sur à peu près tout en fait, puisqu'il est aujourd'hui quand même la figure de proue de la discipline. Mais tout de suite, je pense à quelqu'un ou à deux personnes. C'est George Russell et Kimi Antonelli, parce que je ne sais pas si vous saviez, mais on peut être qu'un dans une voiture de Formule 1. Donc du coup, il faudra choisir entre les deux si ça doit se faire. Et on a l'impression que la dynamique serait plutôt de garder Kimi et Max, et donc de se retrouver avec un Russell kicked out comme ça, un peu au débotté, un peu à la manière de Carlos Sainz l'année dernière, de ce côté 4 forces majeures, mon pote, t'as tout bien fait, mais maintenant il faut partir parce qu'il y a une superstar qui arrive. Ça doit être compliqué à gérer ça.
Bah, on l'a un peu évoqué dans le débrief justement de ce Grand Prix d'Autriche. Et effectivement, pour George Russell, c'est dur. Mais aujourd'hui, en conférence de presse, il essaye toujours de garder un petit peu la main sur Toto Wolff, en lui disant qu'il a toujours eu confiance en Toto Wolff, qu'il sait qu'il aura un baquet l'année prochaine, etc. Donc il essaye de montrer aussi que c'est un pilote qui mérite de garder sa place chez Mercedes. Et je pense qu'il l'a montré notamment cette année. Mais derrière Mercedes, le choix est très rapide, hein. Ils ont fait monter un pilote qui avait à peine 18 ans dans leur monoplace. C'est pas pour le remplacer alors un an après, alors qu'il a fait que 24 Grands Prix. Donc là, George Russell, c'est soit réussir à convaincre Toto Wolff de le garder pour 2026, soit déjà essayer de trouver d'autres alternatives et d'autres baquets pour la saison prochaine.
Mais ce qui peut paraître un peu surprenant quand même pour le coup, c'est que George Russell n'est pas un pilote que Mercedes a pris lors d'un transfert comme ça ou quoi. C'est aussi un bébé Mercedes.
Mais il est parti de l'académie, il a commencé,
exactement.
Il est dans la Williams.
Il a passé 4 ans, je crois. Il y est resté longtemps d'ailleurs. Toto, il avait mis du temps. Bottas était un peu le candidat parfait en deuxième pilote pour Toto, parce qu'on savait qu'il était en dessous d'Hamilton et qu'il était plutôt bon camarade, quoi, que c'est pas lui qui allait foutre le bazar dans l'écurie, et que les dents longues de Russell ont peut-être aussi fait peur à Toto à un moment dans sa gestion du cas Hamilton. Et donc c'est vrai que moi j'ai un peu été surpris quand ça avait l'air un peu évident pour tout le monde que on pense à Russell, parce que tu vois, enfin Kimi il a 11 courses derrière lui, quoi, finalement il pourrait aussi repartir pour attendre un peu, tu vois.
Ouais. Bah, c'est vrai qu'il y a un côté Séraphin. Mais je suis d'accord, parce que en fait George, Tristan il l'a dit, cette année il est vraiment le numéro 1, il l'a prouvé depuis le début de la saison, mais même déjà quand il est arrivé donc en 2022, on sent qu'il lui a fallu un peu de temps, mais vers la fin notamment, la situation de fin de carrière de Lewis Hamilton chez Mercedes, on sent qu'il prenait vraiment le lead et il s'imposait comme ce pilote numéro 1 de l'écurie Mercedes. Donc si on imagine une situation où on met de côté George, ça serait un des pires jetés de pilote, entre guillemets, ça serait très très compliqué. Et puis après, derrière, on sait très bien que où va-t-il rebondir. Et là, on peut imaginer plein de choses.
C'est ma prochaine question, donc vas-y, dis-moi ce que tu imagines. tu vois où Séraphin Bête voit George Russell l'année prochaine.
Je pense que George, il fait partie de ses pilotes un peu comme Carlos Sainz finalement l'année dernière. C'est-à-dire que je pense qu'il aurait beaucoup de possibilités en fait de pouvoir aller un peu partout. J'ai regardé en plus un peu en détail justement les pilotes l'année prochaine, parce qu'il y a beaucoup de pilotes qui ont un contrat, d'autres non. Et à ce stade, qu'on a par exemple la situation de Red Bull, donc on a le deuxième baquet, donc effectivement si Verstappen pourrait partir, on pourrait voir logiquement monter un Isaac Hadjar ou autre, on a aussi Lindblad hein, qui est de l'académie. Est-ce qu'on pourrait avoir une situation où il pourrait prendre son baquet? Je ne sais pas. Sinon la possibilité, c'est du côté d'Aston Martin, où on sait que Stroll, la situation semble de plus en plus compliquée pour lui. Après 7 ou 8 saisons déjà là dans l'écurie, ça serait peut-être un choix aussi intéressant de prendre un jeune comme lui. Moi, je me fais pas d'inquiétude en fait sur George, parce que je pense qu'il est en mesure d'aller dans d'autres écuries. Il y a aussi Alpine, parce qu'on sait que du coup le moteur l'année prochaine de l'Alpine, ça sera une Mercedes, donc ça peut aussi peut-être aider. C'est presque de la peine en fait, parce que de voir, même si c'est hypant, on imagine, on sait que Toto aussi a un intérêt depuis très très longtemps, il voulait prendre Verstappen quand il est arrivé en Formule 1, on sait qu'il n'a pas réussi, donc c'était toujours son regret. Donc qui peut faire partir, c'est vrai que Antonelli, on le fait venir, c'est un crack, on le vend comme justement un champion, mais c'est pas évident. Donc peut-être que George, il pourrait aller voir du côté d'Aston. Finalement, c'est à côté, hein, déjà.
Pourrait traverser la rue. Exactement. Pour trouver du boulot. Il y avait quelqu'un en France qui l'avait conseillé, ça. C'était un peu mal passé. Tristan, toi, t'en penses quoi, toi ? Quelles sont tes hypothèses ?
Ou simplement rester chez Mercedes. Là, actuellement, on en parle comme si c'était déjà signé pour Max Verstappen, mais ce n'est pas encore signé. C'est simplement, là, on a appris notamment qu'il y avait effectivement des contacts entre Max Verstappen et notamment Toto Wolff. Après, il y a d'autres chemins à prendre avant d'avoir une signature. Mais George Russell, actuellement, il a tout autant ses chances que Max Verstappen de continuer et de prolonger son contrat. Je pense qu'il a déjà démontré sa vitesse cette année et que ce n'est pas ça qu'il doit démontrer à Toto Wolff et au bord de Mercedes. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, avant ce Grand Prix de Silverstone, George Russell a autant de chances de prolonger son contrat, je pense, que Max Verstappen, qui sont tous les deux en fait au même stade, au stade de négociation. Alors peut-être qu'avec Mercedes, ça s'est un petit peu refroidi récemment, mais ça ne veut pas dire que George Russell ne signera pas officiellement l'année prochaine avec Mercedes. Il y a toujours cette opportunité, et je pense que justement chez George Russell, on essaye de travailler ça actuellement, tant que Max Verstappen n'est pas mieux placé que lui dans les discussions et dans les négociations avec l'écurie allemande.
Et on t'est surpris un peu que George Russell ne signe pas plus tôt. Je me souviens qu'on avait déjà parlé, il y a déjà quelques
Grands Prix. Ça tarde, c'est pour ça aussi qu'on s'est posé beaucoup de questions, et c'est pour ça aussi qu'il y a des rumeurs qui sortent, parce que normalement George Russell doit avoir signé son contrat en début d'année, et au final il s'est rien passé, et ça a pris du temps. Donc à voir surtout, je pense, pendant cette pause estivale, voir tout ce qui va se passer, parce qu'à mon avis ça va être mouvementé, et on va avoir pas mal de rumeurs un peu des quatre coins de la Formule 1, donc non, ça va être intéressant à suivre.
Bon, quel pourcentage vous pensez, tu vois, genre 50% de chance qu'il soit en 2026 chez Mercedes, 30%, 10%, 90%, Séraphin ?
C'est dur de j'aime pas faire trop d'estimations là-dessus. On parle quand même d'un baquet, du meilleur pilote du monde. C'est difficile, mais là, je pense que tu m'as posé la question début de semaine. Bon, j'aurais dit, on va attendre un peu. Là, on est jeudi, ça continue d'alimenter sur deux choses. Donc je dirais 30-40%, même si voilà.
Et Tristan,
Max chez Mercedes ou Russell qui re-signe?
Max chez Mercedes.
Max chez Mercedes, vu la conjoncture actuelle, un bon 70%. Ah
ouais. Quand même. Ok, d'accord, ça marche.
Bon. Ça serait incroyable, vraiment. On se souvient du move d'Hamilton il y a deux ans, c'était énorme. Là, un pilote comme ça, ça fait 11 ou 12 ans qu'il est, je crois, Max, avec l'Académie Toro Rosso déjà. Dans Red Bull, chez Red Bull, donc
2016,
il arrive 2015.
Ouais, il arrive chez Red Bull en 2016.
Oui, 2016.
Il fait Toro Rosso 2015. Donc ouais, 10 piges déjà. Et avant, il était déjà dans la maison, dans la famille.
Ouais. Donc, et après, il y a le chèque derrière aussi quand même.
Oui, il y a des obligations, parce qu'il a aussi des obligations contractuelles. Donc on sait qu'il a des clauses, notamment de départ, s'il finit au-delà de la quatrième place du championnat pilote avant la trêve estivale. On sait qu'il a une clause pour partir. À voir comment ça se... Là, Max Verstappen, il doit espérer, au final, ne pas forcément avoir des bons résultats. C'est peut-être pour ça qu'il était content de taper la main avec Kimi Antonelli, au final.
Ouais, c'est ce qu'on entend dire, c'est que finalement, il serait à un incident de course de débloquer une clause de son contrat et qu'il ne chercherait pas forcément à gagner en ce moment.
Il y a 9 points.
On aurait atteint l'absurdité la plus totale.
C'est un compétiteur,
bien sûr. Bon, les amis, on referme cette parenthèse. Ce tremblement de terre, on en reparlera évidemment lundi. Peut-être qu'on en saura plus ou pas plus, mais quoi qu'il en soit, on en reparlera.
Tu crois, Louis ? On va pas parler.
Surtout après vous avoir entendu, il y a des choses qui m'ont convaincu. Le moteur Ford, tu sais pas ce qu'il y vaut, c'est peut-être.
Le moteur Mercedes a l'air pas mal, justement.
Et le moteur Mercedes, même si on sait pas non plus forcément.
Même si c'est des spéculations, ils sont quand même forts sur tout ce qui est hybride.
Voilà. Ça fait quand même quelques années qu'il...
On se souvient de 2014.
Exactement, exactement. Donc, pourquoi pas. Et puis, moi, tu sais, je pense aussi tout de suite au podcast, au paddock. Et je me dis, attends, ça nous ferait quand même du grain à moudre.
C'est une belle émission.
Du pain à moudre là-dedans, comme dirait Laurent Blanc. Non mais, donc on revient aux fondamentaux, c'est-à-dire le circuit de Silverstone, puisque ce week-end, c'est le Grand Prix de Grande-Bretagne. à Silverstone, avec, comme on l'a dit déjà lors du débrief de ce lundi, des virages mythiques, l'enchaînement Maggots, Beckett, Chapelle, on a Stowe, club que j'adorais quand je faisais un peu de F1 manager, là, pas F1 manager, mais tu sais là.
Le Simu.
J'en
fais aussi donc.
Ouais, club, l'enchaînement à club, il est top. On se rappelle surtout qu'en sortie de club, on a le fameux And Goes Hamilton qui a doublé. Il était incroyable. Cette action, Séraphin, décris-la un petit peu, toi qui décris bien les choses.
Bah non, mais t'as raison, c'est un élément. On a déjà vu des gros moments de sport, des moments historiques, en tout cas sur ce circuit, t'en as cité les dernières éditions aussi qui étaient hyper incroyables. Là, je me souviens de. On se souvient de 2021.
L'énorme crash Hamilton.
Voilà, quand il finit sur trois roues aussi.
2018,
quand il finit sur trois roues. 2020, je crois, il finit sur trois roues.
J'ai revu il n'y a pas longtemps et j'avais un peu oublié cet épisode. Et c'est vrai, quand même, c'était exceptionnel
à vivre. Max Verstappen qui revient. Ouais, ils mettent l'écart et tu vois l'écart. Ouais. 5 secondes, toutes les 5 secondes, t'as 5 secondes de repris, à mon avis. Ça devait être intense dans le casque à ce moment-là.
2022 aussi, le début de l'ère de ces voitures avec le combat de fou entre Mercedes, Ferrari, Red Bull.
Et Joe sur le toit au premier virage aussi, vous avez fait une belle petite frayeur ce départ de Grand Prix, mais
ouais, c'est vrai.
Ce Grand Prix est magnifique, ce tracé est magnifique. Et il a tellement évolué au fil du temps, parce qu'au final c'est une piste d'aéroport et il y a les constructeurs du circuit ont absolument une liberté folle sur ce circuit, qu'il y a tellement eu de changements et aujourd'hui on a atteint un circuit qui est absolument magnifique. Et tu l'as dit, les enchaînements Maggots, Beckett, Chapelle, moi c'est aussi Cops que je trouve
Cops,
incroyable. Alors un peu comme le Redillon maintenant, où ça passe à fond, donc il y a moins de mais ça reste quand même un virage magnifique et ça reste un circuit avec toujours une histoire et ça fait partie des circuits au calendrier qui devraient avoir officiellement dans les règles FIA une place à vie
carrément.
Ouais, bah, et puis en plus c'est quand même la terre de la création de la Formule 1, en fait, les 75 ans cette année, donc c'est vraiment un circuit qui est magnifique, un tracé qui est magnifique. Silverstone,
Séraphin, pareil.
Exactement. Les écuries ont beaucoup.
Parce qu'il y a une certaine unanimité.
Ouais. Pour beaucoup aussi, les écuries ont leur usine implantée, donc l'intérêt de gagner là-bas, il est énorme. J'ai passé une statistique aussi quand même. Le maître absolu, c'est Lewis Hamilton quand même,
évidemment,
qui a énormément gagné sur ce circuit et puis aussi qui a fait 15 podiums. Il en a gagné 9, Hamilton. D'ailleurs, c'est Prost, il en a 5. Donc, il s'est passé plein de choses. C'est un pan d'histoire. Il a dit Tristan de la Formule 1 et c'est sympa d'y revenir, surtout ce week-end où les chances, là on peut vraiment en parler de plus en plus, de météo avec la pluie, ça arrive souvent sur le tracé, surtout là-bas au Royaume-Uni, mais des chances de pluie effectivement pour le week-end de course, on ne sait pas encore exactement quand, mais ça pourrait aussi énormément jouer et rebattre les cartes.
On avait eu un coup de pluie récemment.
Pas 2020, ouais. En qualification.
C'était l'année dernière, 2023. C'est l'année en course, on avait eu la pluie pour
possible. Mais en fait, et aussi ce qui est marrant, c'est que c'est un temps, vu que c'est l'été aussi, ça change très vite et on peut avoir un tracé qui est très...
On peut avoir
un tracé qui est très chaud, une piste très chaude et en fait quelques averses et ça fait pas forcément passer les pneus pluie aux pilotes. Mais non, mais oui, c'est enfin lundi, là Lewis Hamilton, c'est celui qui a... Ferrari, c'est peut-être ceux qui ont le plus de pression au final, c'est absolument pas l'équipe qui a son Grand Prix à domicile, mais Lewis Hamilton depuis 2014, c'est tellement un monstre sur ce Grand Prix.
C'est quoi ses pires résultats, 3 ou 4e, un truc comme ça.
Il a toujours fait podium depuis...
Podium 2014. Voilà. Je sais pas si on se rend compte... Non. Et surtout, et puis on se rend compte avec la Mercedes de 2022 aussi, la W13, faire podium, c'était assez incroyable. Donc là, Ferrari, je pense qu'ils ont un petit peu de pression.
Puis l'année dernière, quand même, l'émotion, sa victoire justement à Silverstone, c'était incroyable aussi.
Il y avait un sentiment de The Last Dance, et au final, c'était pas The Last Dance. Mais c'est vrai que c'est toujours des belles histoires avec Lewis Hamilton sur ce circuit.
Moi, j'y crois d'ailleurs ce week-end.
Lewis Hamilton, toi aujourd'hui tu penses
je suis prêt à mettre tellement à l'aise sur ce circuit, la Ferrari, on sent que il y a des améliorations qui ont l'air de porter leurs fruits, après les conditions un peu plus fraîches, on sait que Mercedes, encore une fois, ça va les arranger, mais s'il sent bien le petit Lewis, il pourrait monter sur une démarche du podium, ça serait, j'ai envie d'y croire.
Tristan, toi, c'est quelque chose que tu pourrais envisager ce week-end ou tu penses que c'est quand même, par rapport au début de saison, un peu compliqué ?
Bah, vu le niveau des McLaren et vu à quel point ce tracé a toujours été le jardin des Mercedes, peut-être pas la victoire, ou en tout cas il faudrait avoir des faits de course, mais par contre je vois bien Lewis Hamilton peut-être pour la première fois de la saison réellement prendre le dessus sur Charles Leclerc sur ce week-end. En tout cas ça m'étonnerait pas, parce qu'il y a ce côté, voilà, il y a des pilotes qui ont des circuits où ça débloque quelque chose, et Lewis Hamilton, on sait que Silverstone c'est comme ça, où il y a quelque chose qui est débloqué. Charles Leclerc, on peut penser à Monza par exemple, Max Verstappen souvent c'était en Autriche, bon, on l'a moins vu le week-end dernier, mais peut-être pas la victoire, mais en tout cas je le vois bien prendre le dessus de Charles Leclerc ce week-end, ça m'étonnerait pas.
C'est tout à fait possible, parce que c'est vrai que en fait ce qui a prouvé que c'était pas que là-bas, c'est pas une question de voiture ou quoi, c'est la W13, c'est qu'il a même avec son tracteur il a fait des résultats là-bas. Ouais. Donc il y a sûrement quelque chose d'un petit peu de l'ordre du mystique, du psychologique, ouais, du, enfin quelque chose qui n'a rien à voir avec,
et porté par ton public aussi,
exactement, et peut-être que là-dedans il y a des déblocages, comme l'a dit Tristan, qui te permettent d'aller gagner les petits dixièmes qui manquent, parce que en plus c'est des histoires de dixièmes en ce moment, voire de centièmes. Oui. Donc tu peux te retrouver en Q3 ou être éliminé en Q1 pour pas tellement peu que c'est fou. Mais bon, je pense quand même que McLaren va être devant, on va en reparler. Ils ont quand même, on rappelle, 20-30 secondes d'avance ce week-end. On n'avait pas vu ça depuis quelques temps, ça a été quand même assez impressionnant. On a vu un Lando Norris dominer son sujet et même son coéquipier pour le week-end en tout cas. Du coup, moi, la question que j'ai envie de te poser, Tristan, c'est, qui est toute simple, c'est est-il de retour dans le match pour... il est qu'à 15 points finalement.
Ah mais il n'a jamais été pas dans le match. En tout cas mentalement, il y a un moment il a plus été dans le match, ouais, c'est clair. Après on sait que ça reste un très bon pilote, Lando Norris, et je pense qu'en termes de performance au final, quand on regarde, à part son erreur du Canada qui est une grossière erreur, qu'on soit d'accord, mais à part son erreur, c'est comme Oscar Piastri. Ce qui est impressionnant cette année, c'est leur régularité. C'est à chaque fois ils arrivent à faire des résultats absolument magnifiques. Il y a eu au début de la saison des petits problèmes chez McLaren, peut-être de maximisation sur les stratégies, mais je trouve qu'ils ont très bien réagi à ce niveau-là, et ça m'étonnerait pas qu'on voit de nouveau un doublé McLaren ce week-end. En tout cas, quand on sait à quel point il faut de la stabilité aérodynamique et à quel point il faut une voiture qui soit prévisible sur ce circuit de Silverstone qui est souvent très ouvert, et donc on a beaucoup de changements de vent, donc ouais, avoir une voiture qui est avoir une confiance totale en sa voiture est très important sur ce circuit, et je pense que McLaren va vraiment performer encore ce week-end, et sauf incident de course ou pluie justement, pour moi McLaren va largement dominer ce week-end de course.
Et tu verrais qui devant alors ce week-end ? Tu penses que... Parce qu'il y a un Anglais dans les deux.
Il y a un Anglais, il y a aussi un Australien qui est en fait un peu de sang anglais aussi au final. Donc, et on sait l'attachement d'Oscar Piastri aussi au Royaume-Uni, parce qu'il a aussi grandi là-bas en partie. Donc je pense que Lando Norris peut surfer sur une bonne vague. Il a notamment, un peu comme ça se fait récemment, il a ouvert une tribune spécialement pour lui il n'y a pas longtemps aussi, depuis quelques années, où il y a uniquement ses supporters. Donc c'est ce genre de choses qui peuvent mettre en confiance un pilote. Donc pourquoi pas Lando Norris garder sa forme qu'il avait. Après, on est sur un circuit où je vois bien Oscar Piastri justement remettre une couche sur ce qu'il avait déjà commencé, rajouter une pierre à son édifice sur cette saison magnifique qu'il est en train de faire. Honnêtement, je n'arrive pas à savoir quel pilote. Non, c'est tellement indécis que j'arrive pas à savoir quel pilote prendra le dessus. Mais à mon avis, on va le voir vite au niveau des essais, des premières séances d'essais libres.
Je pense aussi, et je pense en tout cas que ça soit l'un ou l'autre, on va voir beaucoup de orange ce week-end. Toi, Séraphin, tu penses que Lando Norris, c'est le genre de pilote à plutôt être galvanisé par une ambiance comme ça à domicile, avec un peu de pression, d'être un peu de cette obligation de bien faire, ou il fait partie des pilotes que ça peut plutôt déstabiliser, quoi?
Pour se mettre une pression, plus au contraire. Là, je trouve que Lando Norris, il sort quand même de son incident. Là, il rebondit très très bien au Canada. Pas au Canada, en Autriche, pardon. Donc là, je me dis que justement, il est dans une bonne dynamique aussi mentalement. On voit que c'était un peu plus compliqué. Donc moi, je pense au contraire que ça va le porter. Après, je partage l'avis de Tristan. C'est impossible, en fait, de dire qu'il va être devant. On va avoir en fonction des essais libres et puis de la tenue des pneus aussi pour la McLaren en course. Donc c'est dur de voir, mais c'est vrai que 15 points, c'est ça qui est cool. C'est que la bataille vraiment entre les deux, elle est encore très très proche. et avec une belle McLaren. Je ne sais pas si vous avez vu cette belle livrée qui rappelle les années 2007-2008.
Avec là, du chrome.
Avec le chrome et le partenaire, tout ça. Donc, elle est très très belle. Donc ouais, dur à dire, mais je pense que ça va plutôt le porter qu'au contraire, Norris.
Puis on les laisse se battre, donc c'est ça qui est bien aussi, c'est que s'ils sont proches, vous inquiétez pas qu'ils vont vous offrir du spectacle ce week-end, et je pense que ça va faire plaisir aux fans de pas avoir de probablement pas de consigne d'équipe une nouvelle fois chez McLaren ce week-end, et c'est ça qu'on veut au final. Si les 20 premiers tours en Autriche étaient aussi passionnants à suivre, peut-être un peu moins à la suite du Grand Prix, mais si les 20 premiers tours l'étaient, c'est notamment parce qu'ils avaient le droit de se battre, et on espère que ça va continuer.
Ils les ont fait battre un peu pour le spectacle, et puis, après ils ont fait au premier stint, ils ont dit bon Oscar,
tu vas te calmer,
tu vas faire 4-5 tours de plus, on va te foutre un peu ta course en l'air, tu vas te retrouver à 6 secondes et nous on va commencer à respirer un petit peu. Ouais, il y a une certaine logique, hein.
Il y a un championnat à jouer, donc
exactement, il y a un championnat à jouer, et après moi je me dis McLaren, écurie britannique, est-ce que ils vont pas dire celle-là on veut pas se rater, tu vois, on devrait être devant, donc c'est pas ce soir, c'est pas aujourd'hui qu'il faut se mettre l'un dans l'autre. Ah bah ça a déjà été fait, ça a même été fait à Silverstone entre coéquipiers, donc c'est quand même quelque chose qui, moi je m'imagine que dans cette situation tu leur dis peut-être bon, vous êtes amusé en Autriche, vous êtes bien battu, mais là pour la Grande-Bretagne, pour Silverstone, votre Grand Prix, il joue samedi, et celui qui est premier samedi, il a tous les avantages le lendemain dès le premier virage, quoi.
Ouais, c'est un peu ça.
Ils ont pas gagné depuis 2008, donc c'est vrai que.
Bah, c'est ça, c'est ça. C'est que, enfin, tu vois, McLaren, moi je me souviens il y a encore quelques années, excusez-moi, qu'en fait, ils souffraient de cette période de désert, alors qu'ils étaient les boss avant. Et j'entendais souvent cette stat. Ils n'ont pas gagné chez eux depuis 2008. Et donc, tu l'entends chaque année. Et chaque année, tu te dis, hey, 2008, ça commence à être loin, là, les amis. Et tout. Et tout ça fait que moi, je suis Zach Brown. Je me dis, là, on a tout pour gagner à la maison. Aujourd'hui, mes pilotes, ils ne se battent pas.
Hey, mais si tu le fais aujourd'hui, tu le fais le reste de la saison, ça veut dire. Ou alors t'es obligé de rendre l'appareil au pilote plus tard, et c'est ça qui peut créer aussi peut-être.
Eh ben non, parce que le pilote plus tard, je t'ai donné les règles avant, et mais t'as été moins bon en qualif.
S'ils se sont donné les règles avant, oui. Voilà. Si dès le débriefing, de la qualif, ils sont d'accord sur ça, ok, oui, ok, ouais. D'accord, là il y a pas de souci. Mais si c'est en course que ça intervient, parce qu'ils se rendent compte qu'ils se battent.
Si c'est en course, tu te.
On va en entendre parler. Ouais, on va plus en entendre parler que George Russell et Max Verstappen, les rumeurs.
Non, c'est clair que si tu te réveilles que le dimanche pour commencer à mettre des consignes pareilles, tu crées un autre tremblement de terre. C'est le thème de ce podcast. on va passer au sujet suivant avec la candidature de Tim Mayer à la FIA, puisque vous savez qu'il y a des élections cette année et que Mohamed Ben Sulayem, président actuel, était pour l'instant le seul en lice, ce qui est toujours un petit peu surprenant quand on parle d'élections. Mais là, la BBC, donc on fera de la BBC, annonce que l'ancien commissaire de course, donc Tim Mayer, devrait annoncer sa candidature vendredi. Séraphin, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, non ?
C'est une bonne nouvelle, t'as raison. Il y avait aussi, à un moment donné, on a parlé de Sainz qui pouvait se présenter.
Le père. Ouais, ouais,
un petit conflit d'intérêts à son fils.
Donc, on semble que ça se retire. Là, effectivement, il va falloir voir par qui il est soutenu, parce que ceux qui votent aussi pour la FIA, c'est une partie d'un peu tout le monde, tous les représentants aussi. Donc, d'ailleurs, je ne sais pas par qui il est soutenu, mais il a un passé, en tout cas, du sport automobile et de la Formule 1. Donc, c'est quelqu'un de confiance. Donc, il va falloir voir. C'est quand exactement, d'ailleurs, les élections ? Ça se passe quand, vous savez ?
C'est plus tard dans la saison, je crois, mais c'est à la rentrée seulement. Je crois que là, ils ont encore du temps pour tout truster.
Pour aller voir les autres.
Ouais, voilà, exactement. Et de toute façon, il n'y a qu'une personne dont il faut avoir le soutien pour gagner cette élection, c'est Jean-Luc Roy. Donc, j'espère que Tim Mayer a le soutien de Jean-Luc Roy. On lui posera la question lundi. Tristan, t'en penses quoi de cette nouvelle ? Et plus globalement, est-ce que toi, personnellement, tu trouves que tu préférerais le voir gagner plutôt que Mohamed Ben Sulayem, ou finalement, le travail qui a été fait par Mohamed Ben Sulayem, toi, il te va bien, quoi.
Je connais pas assez bien les, on va dire, les programmes internes de chaque représentant, mais en fait ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a vu Carlos Sainz Senior expliquer que c'était trop complexe dans quoi il s'engageait, donc c'est pour ça qu'il a retiré sa probable candidature. Mais on voit Tim Mayer, qui est donc un commissaire de course en Formule 1, qui a été viré entre guillemets de son poste par Mohamed Ben Sulayem, notamment parce qu'il était représentant de l'appel du circuit des Amériques lors d'une sanction qu'ils avaient parce qu'il y avait eu un envahissement de piste trop tôt. Et donc lui, il avait expliqué que Mohamed Ben Sulayem n'avait pas apprécié qu'il soit de ce côté-là des représentants du circuit des Amériques à Austin, et qu'il l'avait un peu viré pour cette raison. Donc en fait, c'est intéressant de voir un candidat qui aura probablement les idées opposées à Mohamed Ben Sulayem, et qui, selon la BBC, est quand même soutenu par pas mal de monde. Donc je pense que Mohamed Ben Sulayem, qui était jusque-là sur un petit nuage, va peut-être se poser quelques questions. Et vu qu'il a créé pas mal de tensions aussi au sein de la FIA, Mohamed Ben Sulayem, Tim Mayer doit avoir pas mal de support pour les gens qui vont voter. Donc non, c'est intéressant d'avoir des avis divergents. Et quand on sait que Mohamed Ben Sulayem s'est plus concentré sur par exemple les bijoux que portent les pilotes que des questions sportives qui étaient importantes à traiter pour la F1 ou d'autres sports, bah c'est bien que oui, il y ait peut-être d'autres idées qui soient promues au sein de la tête de la F1.
Alors j'ai fait un petit check, c'est bien en décembre que se dérouleront les élections lors de l'Assemblée générale. Donc il y a quand même encore le temps. Il y a peut-être une date butoir quand même pour dire je suis candidat.
Oui, probablement.
Ça devrait arriver, puisque Tim Mayer, je pense qu'il sort pas du bois par hasard à n'importe quelle date, et que si ça arrive à cette date-là, c'est que quand même il est temps. Puis, de toute façon, une campagne, ça se fait avec du temps. T'as besoin d'aller voir. On parle pas de campagne politique où les gars ils vont être à la télé tout le temps.
C'est de la politique aussi, en soi.
Non, mais évidemment, c'est de la politique. Mais je veux dire, tu peux pas te contenter de faire. Tu vas pas faire des meetings ou. Enfin, t'es obligé d'aller voir les gens, de boire un café avec un tel, de boire un café avec un tel, de lui expliquer
c'est la vraie prospection.
Voilà, exactement. Donc, et à la fin, t'arrives, tu fais tes petits comptes, tu te dis alors là, je pense que j'ai bien 12 votes et que je devrais gagner. Et puis, t'en as zéro parce qu'ils t'ont tous pris pour un cono.
Comme l'élection du pape en fait, fumée noire ou fumée blanche.
Exactement.
On ne saura qu'en décembre.
Comme l'élection du pape, où je me souviens aussi d'une élection de la LFP récemment, comme ça, où un candidat était arrivé, on lui avait dit ah ouais, c'est génial que tu viennes, on va à Cyril Linette pour ne pas le citer. C'est génial, tu devrais gagner, on est plein à vouloir voter pour toi. Il s'était pris une dérouillée. Merci monsieur le président.
On se demande pourquoi.
Et d'ailleurs, vous aviez eu raison, puisque la Ligue 1 est à deux doigts de couler. Bref, c'est pas le sujet, les amis, on reste sur le circuit et puis on va parler rapidement, mais je crois qu'il y a Audi, comme on dit dans la langue de Goethe, Audi qui inaugure un site donc en Grande-Bretagne, justement, Séraphin.
Ouais, tout à fait. Donc on sait que c'est la Motors Valley, il y a énormément d'écuries qui sont présentes depuis très longtemps. Et là, donc Audi, donc qui va arriver officiellement l'année prochaine, qui a ses locaux normalement, qui est basé en Suisse, mais là effectivement qui a inauguré une nouvelle antenne justement au Royaume-Uni, un nouveau centre du côté de Bicester, donc dans le même endroit que l'autre écurie, et c'est un soutien pour les ingénieurs, donc en complément. C'est assez intéressant parce qu'on sait que c'est un moment important, tout s'accélère, on sait qu'en interne, moi j'ai eu l'occasion en plus d'aller justement sur la base où ils font
les moteurs. Écoutez-le comment il se la pète.
J'ai eu l'occasion d'aller en Allemagne, pas forcément voir les usines de F1 parce que justement c'était un peu confidentiel, mais c'est vrai que c'est important en fait d'avoir un centre justement directement au Royaume-Uni, même pour aussi transférer aussi le matériel, genre de choses quand il y a les Grands Prix. Donc c'est positif pour eux, ça va dans leur projet d'arriver en F1, d'expansion. Voilà, il y a Mathieu Binotto aussi qui était évidemment présent pour cette inauguration. Et donc, ouais, c'est intéressant. Pour l'instant, ils ont leurs deux pilotes, Hülkenberg et Bortoleto. Donc il va falloir voir concrètement. Voilà, on n'est pas sur un développement des voitures. Hein. C'est vraiment un centre technique avec une partie des ingénieurs, tout ça qui seront présents en ce moment.
C'est la question que j'allais poser. Ils vont pas commencer à faire des choses là-bas et en Suisse parce que ça me rappelle Enstone Viry et ça fait 40 ans que ça ne marche pas. Donc ouais. Si j'ai un conseil à leur donner, c'est ne pas faire ça, ne pas suivre ça. Est-ce que tu penses quand même que c'est nécessaire cette petite antenne que finalement tu dois avoir une entité au cœur de cette fameuse Motors Valley, là où c'est l'origine de la F1 en fait. Enfin, tout le monde a quelque chose là-bas. Donc, est-ce que tu penses que s'ils étaient restés full Suisse, ça aurait pu être un problème?
Bah, pour une petite équipe qui n'a au final plus de soutien comme elle avait de Ferrari, parce qu'on parle de Sauber qui est toujours motorisé par Ferrari, c'est important, oui, d'avoir ces emplacements en Angleterre, parce qu'au final, quand on regarde, il y a uniquement Ferrari qui est en Italie, il y a Racing Bulls qui est aussi en Italie, mais qui a un tel support de Red Bull qu'au final, c'est pas si problématique que ça de ne pas être en Angleterre. Et Cody s'installe là-bas, même si c'est pour mettre simplement des petits bâtiments pour de l'exploitation et simplement pour les ingénieurs, bah, ça montre aussi que leur projet, ils veulent mener à bien un projet sérieux également, et que c'est pas uniquement pour vendre une image de marque et juste faire acte de présence. C'est que derrière, il y a aussi une recherche de performance, il y a une recherche de trouver les bons moyens, et l'espionnage industriel il se fait aussi là-bas en soi. Enfin voilà, c'est autour d'un café entre deux ingénieurs, un d'Aston Martin, un de Mercedes et un de Red Bull à Milton Keynes, que bah en fait on arrive à obtenir quelques informations, on voit les camions passer. Voilà, c'est ce genre de choses qui aussi font partie de la F1 et qui sont importantes. Et c'est bien de voir Audi ne pas se cantonner uniquement au bâtiment en Suisse de Sauber, ou alors à leur bâtiment en Allemagne du côté d'Ingolstadt. Donc non, c'est vraiment bien.
Ingolstadt.
Ah, je l'ai placé.
Ça, c'est un...
J'ai fait LV2 allemand, faut que ça me serve de temps en temps.
T'avais comment ça? On va faire un podcast spécial. Pourquoi Tristan a choisi l'allemand LV2 un jour? Parce que là, moi, j'ai pas compris.
Mais en fait, ils ont quand même, du coup, c'est bien ça. Hein, ils ont bien racheté en fait le bâtiment de Sauber en Suisse. Mais vu qu'ils sont aussi en Allemagne, ils auront quand même finalement deux sites en Suisse, Allemagne.
Bah, trois au final. Ils ont trois avec. Même si c'est. Bon, faut pas se perdre après.
Même si ce que disait Séraphin, c'est qu'on est vraiment sur une antenne, quoi. C'est plus avoir quelque chose de physique sur place, c'est nous, c'est chez nous.
T'as ton logo Audi et tu passes, ouais. Tu vois, Mercedes, machin, ouais. Audi, ils sont là, on les oublie pas.
Ouais, voilà, il y a un peu de ça, il y a un peu de ça. Bon, on va parler de nos Français maintenant, parce que ça commence à bien faire. Qu'est-ce que vous voyez pour nos Français ce week-end? On sort donc, pour faire un résumé rapide, d'une course compliquée pour les Français, avec Gasly qui s'en sort bien au début, et puis après, c'était la perdition. Apparemment, la voiture avait quelque chose de cassé. Enfin bref, selon lui, elle était inconduisible. On a Isaac Hadjar qui, pour la première fois de la saison, s'est fait... battre, faut le dire, mais ça, moi j'avais pas envie de le dire. Mais
il s'est fait dominer sur le week-end, honte de le dire non plus.
Il faut des coups de mou aussi, on peut pas toujours être sur des périodes.
Exactement, une course compliquée, et à l'inverse, Esteban avec un début de week-end pas simple, une qualif encore une fois, compliqué pour répéter le mot. Et lui, à l'inverse, cette remontée qui l'amène plus qu'aux portes des points, puisqu'il en arrache un à la fin. Vous voyez quoi pour nos Français à Silverstone, Tristan? Toi, tu vois quoi pour eux?
Bah justement, pour commencer par Isaac, qui est, alors c'est pas le mieux placé au final au classement, mais c'est celui que je trouve le plus en forme depuis le début de la saison. Bah, Isaac, je pense qu'il va remettre les pendules à l'heure probablement avec Liam Lawson. Voilà, Silverstone, c'est aussi un circuit où beaucoup de jeunes roulent, parce qu'il y a beaucoup de formules de promotion, donc Isaac connaît bien le circuit comme Liam, mais ça fait partie des circuits qui ne sont pas des découvertes, qui ne sont pas trop compliqués pour commencer. Donc je pense que Isaac peut avoir un bon rythme sur ce week-end. Pierre, l'Alpine est toujours a toujours autant de difficultés, on n'arrive toujours pas à savoir comment ça se passe. Même Franck Montagny qui a plus de connaissances chez Alpine que Flavio Briatore même, a du mal à savoir ce qui se passe au final. Donc, je pense que ça va être un... Bah, Alpine, soit ça marche très bien, soit ça marche pas du tout. Et si ça marche très bien, c'est que souvent ça marche pas du tout. Mais le problème avec Pierre, c'est... encore une fois, c'est Franck qui en avait parlé. Non, ou c'est Jacques Villeneuve, il me semble, qui avait dit ça, que Pierre favorise beaucoup peut-être trop même la qualification ouais. pour et en course derrière, c'est difficile.
Je te rappelle ce qu'a dit Jean-Luc à ce sujet lundi. Oui, oui.
Pour une fois, il n'était pas d'accord.
Il nous a attrapé le pauvre Jacques Villeneuve, il te l'a mis en boîte. C'est Raphaël. Qu'est-ce qu'on en pense, toi? Est-ce que tu as des attentes un peu particulières? Est-ce que tu as un petit espoir? Ou là, je suis juste en train d'essayer de, de vouloir passer un bon week-end, quoi, merde.
c'est très difficile. Je rejoins Tristan, Isaac, c'est sur lui qui monte. Là, on arrive à la quasiment mi-saison, hein, d'ailleurs en deuxième Grand Prix de la saison. C'est celui qui montre la plus grande régularité, aussi avec une monoplace qui est la plus équilibrée. Donc, je pense qu'il est en mesure, c'est un circuit qu'il connaît bien aussi, de se rapprocher du top 10. Bon, il va falloir voir comment ça se passe. J'ai peur aussi que ça soit très serré. Il y a Williams qui pourrait aussi, qui enchaîne le mauvais week-end. Il va falloir voir aussi comment ça se situe, donc c'est difficile de savoir. Et puis Esteban en course aussi qui fait finalement toujours des bonnes surprises, donc voilà, on croise les doigts pour un petit français.
Ah ouais, on croise plus que les doigts et du coup on a parlé un peu de ce qu'on avait envie de voir pour nos français. On va partir direct du coup sur les pronos de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Les amis, ça va être très simple, je veux une pole et le podium. Ah, c'est fini les petits pronos là de Nico. Oui, oui, vous me dites un truc comme vous voulez. Non, non, non. Le podium, la pole.
C'est sérieux.
Surtout que moi j'ai toujours faux, donc là je suis très bien à cette place là parce que j'ai pu donner de réponse. Tristan, ton prono.
Pole position magnifique de Lewis Hamilton dans des conditions changeantes.
Oh là là, voilà, ce doux rêveur
qui extirpe le mieux sa voiture des virages britanniques sous la pluie. Et alors victoire de George Russell, parce que j'aimerais bien qu'il fasse faire un peu taire les rumeurs, et en tout cas chez Mercedes il y a un petit peu ce côté mais pourquoi on parle à Max alors qu'on aspire. On a ce pilote. En deuxième position, Oscar Piastri. Et troisième, Max Verstappen. Parce que je sens que Lando Norris, il va se passer quelque chose. Malheureusement, ce week-end, il enchaîne trop. Après une grosse performance, il enchaîne trop de... Pas forcément de sa faute, mais une petite casse moteur. Ou voilà, un petit problème au départ ou quelque chose comme ça. Et ouais, voilà, un
après,
petit fait de course.
C'est vrai que si on suit sa logique, comme on le disait en début de ce podcast, c'est un bon Grand Prix, un moins bon. Donc là, normalement,
après,
on est sur le moins
Monaco,
bon.
Monaco, il était nulle part. Donc ouais, c'est... On verra bien. Mais ouais, victoire de George.
Séraphin, quel est les tiens? J'étais en train de te demander si je te demandais le meilleur français, mais en fait on a déjà fait les français.
Esteban, allez.
Allez, ça marche.
Là, c'est Séraphin. Vraiment, j'avoue que c'est un peu le hasard, parce qu'avec les conditions, c'est pas trop en fonction de ce qui a se passé, mais moi j'ai plutôt mis quand même...
T'inquiète, je te demande pas de mettre ta maison en jeu. Hein.
la pole position...
De toute façon, on a tous faux à chaque fois. Donc.
Je vais mettre la pole de Lando Norris.
Ah ça j'aime, parce qu'on n'est pas du tout sur les... Ok.
À domicile, je vais dire aussi victoire de Norris, et derrière moi j'ai mis Russell et Hamilton, du coup je garde Hamilton au podium.
À toi, c'est l'hégémonie britannique. C'est là, ça y est.
Là effectivement, j'ai mis les trois britanniques.
Là, le podium, c'est
la perfide Albion.
Le God Save the King, il résonne 17
allez,
fois.
Allez, j'ai envie de. Mais je pense entre Ferrari. En fait, c'est tellement. On ne sait pas, hein, c'est actuellement ce qui peut se passer. C'est tellement serré aussi.
C'est vrai que ça va beaucoup dépendre des conditions météo.
Ouais,
aussi,
en fait, c'est comme ça aussi. Hein. On sait qu'ils pleutent sous la pluie. Notamment, voilà, ceux-là, ils sont plus à l'aise et ils sortent des fois des bons résultats, ça peut jouer pour eux.
Alors moi, je vais vous dire un truc. Il y a un truc l'été que j'ai remarqué, mais ça se trouve c'est juste un feeling et c'est pas vrai du tout. Mais c'est que dans les grands prix d'été, on nous annonce souvent de la pluie, mais comme Tristan l'a dit, ce sont des averses et c'est très souvent qu'il pleuve une demi-heure après la fin du Grand Prix. Quand t'es là dans Formula One, quand tu regardes sur Canal+. T'as passé un Grand Prix un peu pourrave, il y a eu deux dépassements.
Ah bah c'est souvent la sieste en plus, assez
bien. Exactement.
Tu fais chaud et tout.
Et là, tu commences à écouter tout l'après Grand Prix, et là tu vois que ça commence à pleuvoir et tu te dis mais on aurait pu faire un Grand Prix de ouf.
Et avant ça, t'as une petite radio quand même qui dit on attend de la pluie pour 5 tours, qui ouais. Te met un petit espoir, qui te donne envie de rester éveillé.
Exactement.
Et au final, il se passe rien.
Exactement.
Le radar météo à chaque fois qui nous montre là.
Ouais, exactement, avec le radar où il y a une précipitation monumentale pile sur la croix.
C'est violé carrément.
Le commentateur te dit, vous voyez la croix, c'est le circuit, donc là ça devrait tomber. Et bah non, ça tombe pas. Bon, ça va, c'est qu'on on a tous remarqué ce truc là. Donc ouais, un petit peu de pluie, ça pourrait toujours donner un peu de plaisir. Bon les amis, le drapeau à damier du warm-up vient d'être agité. Messieurs, merci à vous
Merci.
Un plaisir.
Vous
merci.
Allez passer un très très bon week-end, je pense. On n'oublie pas la page Insta, RMC Formule 1, la page TikTok. On est sur les réseaux, puisque maintenant qu'on a des Jones. Je suis tellement un boomer à dire Jones. C'est incroyable. Je rêvais de la faire un jour, une fois à l'antenne. N'oubliez pas donc tous nos réseaux sociaux. N'oubliez pas la petite note aussi pour le podcast. Je vous souhaite un excellent week-end de Grand Prix. Profitez. Perso, moi, je vais profiter parce qu'entre un Grand Prix à Silverstone et le début du Tour de France.
Ouais.
Je sais pas si on peut appeler ça le paradis, mais en tout cas, moi j'appellerais bien
dans
ça
dans ma
paradis.
Ville, donc je suis...
Ah, tu les lois, tu y seras au
samedi,
grand départ.
Ouais, samedi, je pense que je vais voir le départ. Ouais.
Ah, ça c'est sympa. J'ai peur que nous connaissions déjà le vainqueur, malheureusement, mais on s'éclatera.
Max
bien.
Verstappen. Ah non.
Ouais. Ah là là, je sais plus où je suis.
Déjà, on commence en France, donc c'est déjà cool.
C'est déjà cool, mais on aurait pu commencer à le Silverstone. Beckett, Magot, j'appelle. À vélo, ça peut être sympa. Bon allez, les amis, on se retrouve lundi. N'est pas Racing qui veut.
Le paddock RMC.